certains problèmes de couple.
Avoir recours à l'analyse, c'est toujours substituer un couple à un autre, ou du moins superposer le couple qu'on va former avec l'analyste au sien. D'ailleurs, le conjoint, quand il y en a un, ne prend pas toujours ça très bien. Il peut s'opposer, ça se voit, tolérer, éventuellement, il entre à son tour en analyse. Et c'est parfois en cours d'analyse que le problème de couple se découvre. On se demande ce qu'on fait avec son partenaire, comment on a pu songer à s'apparier à cette plaie. Aussi bien, on va en analyse pour essayer de déchiffrer ce qu'il vous dit, quand on n'arrive pas à le comprendre, pour essayer de déchiffrer les signaux qu'il émet, les messages ambigus, équivoques, peut-être malveillants, qu'il vous destine, comme s'il parlait par énigme. Donc, on vient traiter la question du désir du partenaire avec son partenaire analyste. Et souvent aussi, parce qu'on est blessé par ce que vous dit votre partenaire. Faut dire que, enfin, il est difficile de généraliser, mais en règle générale, une femme n'arrive pas à encaisser ce que lui dit son homme. D'ailleurs aussi, elle n'arrive pas à encaisser ce que lui dit sa mère. Toute règle est susceptible d'exception, bien entendu. Et bien souvent, du côté homme, le problème est de ne pas arriver à choisir la partenaire qui serait celle qui convient. Ou de ne pas arriver à être sûr que c'est la bonne, si on en a plusieurs, ou que c'est bien elle. Et quand on n'en a pas de partenaire, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui fait obstacle à en avoir un? Donc dans tous les cas, avoir recours à l'analyse, c'est introduire un partenaire supplémentaire dans la partie qui se joue pour vous avec un partenaire. Seulement, ça n'est pas si clair de savoir quel est votre vrai partenaire. Et dans l'analyse, ce qui se découvre, c'est que votre vrai partenaire, c'est toujours ce qui vous est impossible à supporter. Votre vrai partenaire, c'est votre réel, ce qui résiste et qui vous occupe. Parfois, le vrai partenaire, ce réel, ce sont vos pensées. Il se peut que vous n'arriviez pas à supporter les pensées qui vous viennent et que ce soit elles qui vous persécutent. Et à ce moment-là, on peut dire que vous jouez votre partie essentielle avec vos propres pensées. Comment arriver à ne pas les penser, donc, si on veut, à penser à autre chose? Et on voit des sujets, enfin, qui souffrent d'être rattrapés par leurs propres pensées, qui s'efforcent d'annuler leur « je pense », de l'intoxiquer, de l'anesthésier, par l'alcool, par la drogue, de ruser avec leurs pensées. Et ça peut aller parfois jusqu'au point où l'idée de suicide vient. Ça peut être une façon radicale de divorcer d'avec ses pensées. Parfois, le partenaire essentiel, le réel, c'est le corps, le corps qui n'en fait qu'à sa tête, si je puis dire. Le corps qui reste frigide dans l'acte sexuel, alors que l'amour est là pourtant. Le corps du mal qui, en dépit du désir, de l'amour, ne manifeste pas l'érection attendue, ou alors ça peut être le corps qui se couvre d'eczéma et On ne sait pas pourquoi, il vient et il disparaît. Parfois, le partenaire essentiel, c'est l'image. À quoi on voue toute son attention et qui concentre toute la douleur. Alors, la personne à laquelle vous êtes lié, bien souvent, elle ne fait qu'habiller ce réel qui est votre vrai partenaire. Et c'est ainsi qu'en analyse, on voit apparaître, et c'est parfois douloureux, c'est toujours surprenant, le vrai fondement de votre couple. Je peux prendre un exemple, évidemment particulier, celui d'une femme qui a été laissé tomber par le père à sa naissance, et même avant sa naissance, puisqu'on est dans le cas où le gars a pris la poudre d'escampette à peine tiré le fameux coup. Alors quelqu'un lui a tenu lieu de père, mais elle a décidé très précocement, dans sa petite enfance, personne ne payera pour moi. Au fond, elle le décide en faisant contre mauvaise fortune bon cœur, si on veut. Elle assume l'abandon où elle a été laissée par un « je n'ai besoin de personne ». Voilà comment elle s'en tire. Alors ça l'a lancé dans sa vie, dans une certaine errance. Elle me faisait penser, enfin, à la tortue qui promène sa maison sur son dos. Et puis, elle trouve un homme. Elle s'attache à un homme. Elle fait couple et progéniture avec cet homme. Et quel homme trouve-t-elle? Elle trouve un homme, précisément, qui ne veut pas payer pour une femme. Ça lui convient, évidemment, cet homme-là, qui ne veut pas payer son écho à la femme. Et entre tous, c'est avec celui-là qu'elle fait couple. De plus, c'est un homosexuel. Et ils s'aiment, ils s'accordent. Et la base du couple, c'est ça, que l'un ne payera pas pour l'autre. Tout est bien, sauf que le malheur veut tout de même qu'elle entre en analyse. Et alors, dans l'analyse, naît le désir que l'autre paye pour elle. Un rêve lui revient, celui d'une boutique de son enfance, et elle se souvient que lorsqu'elle allait prendre quelques marchandises chez ce fournisseur, qui était en bas de chez elle, elle disait « Papa paiera ». Celui qu'elle appelait papa, c'était le substitut paternel. Et la voilà qui se met à désirer que l'homme, le père de ses enfants, paye pour elle. Elle ne veut plus être la tortue. Mais le gars avec qui elle est, fidèle au contrat de départ, au contrat qui était au fond basé sur le symptôme, le gars, lui, il n'entend pas les lâcher. Et voilà qu'elle le déteste, qu'elle songe à le quitter, elle prépare son départ, le gars ne moufte pas, et alors, logiquement, elle lui présente des factures. Et puis un jour, elle lui présente une facture de trop, de gaz et d'électricité. Ça se révèle intolérable pour lui. Il prend ses clics et ses claques et il réclame, enragé, le divorce. Après avoir prévenu Gaz de France de ne plus lui envoyer de factures, qu'il ne les payerait plus. Et c'est évidemment là douloureux pour elle. Et on peut dire que la psychanalyse a là atteint ce qui était la base symptomatique de ce couple. Elle a surmonté ce « je n'ai besoin de personne ». Mais voilà, désormais, elle est divorcée. Et elle se retrouve dans la situation où certainement cet homme qu'elle a quitté ne payera plus pour elle. Voilà, par exemple, une vérité qui se découvre à l'analyse et qui est là, si je puis dire, chèrement payée. Un autre exemple. Une jeune femme se marie avec un homme qui vivait avec sa bande de copains. Vous connaissez ces bandes de copains où les gars se bousculent, s'envoient des bourrades, sont entre eux, des gars, quoi. Et au fond, c'est celui-là qu'elle a choisi, qu'elle a décroché de sa bande de copains et hop, elle l'a emmené. Et c'est ça, au fond, qu'elle voulait surmonter les réticences d'un garçon, ses inhibitions, son extrême mauvaise volonté à se lier à une femme. Parce que lui, semble-t-il, il voulait rester marié avec sa pensée, avec ses mauvaises pensées. Et elle a exercé un certain forçage pour avoir celui-là, pas un autre. Alors que, dit-elle, elle ne manquait pas de prétendants. Le résultat, c'est qu'il ne se passe pas un jour où il ne lui fasse pas payer l'établissement de ce couple sous la forme de remarques désobligeantes. Des remarques qui vont jusqu'à l'injure quotidienne, sous des formes particulièrement crues. Là, ce que Freud appelait la haine de la féminité chez l'homme s'expose de la façon la plus évidente. On s'ameute, les amis disent « quitte-le donc ». C'est la fameuse question « qu'est-ce qu'elle lui trouve ?» Et c'est une question où se signale le fait que le partenaire, le vrai partenaire, c'est souvent votre symptôme. Alors, la pression est telle qu'elle se précipite en analyse. Et alors, qu'est-ce qu'elle découvre en analyse? Eh bien, d'abord, qu'elle va très bien, qu'elle prospère, qu'au lit, elle jouit. Parce que, après l'injure, on baise. Elle enfante, elle travaille. Et au fond, toute la douleur est concentrée sur le fait que, au fond, cet homme parfait, qui la rend heureuse, est en même temps injurieux. Donc c'est ça qui la ravage. Et en analyse, elle se montre dévastée par ce que lui dit ce partenaire. Et un peu plus loin, qu'est-ce qu'il se découvre? Il se découvre, avec l'aide de l'analyste, ou au moins avec l'aide de cette perspective que le sujet est heureux, y compris dans sa douleur, il se découvre que la parole d'injure est justement le noyau même de sa jouissance. Qu'elle a, si l'on veut, de l'injure conjugale, une jouissance de parole. Il se découvre qu'il lui faut être stigmatisé pour être. Et c'est d'ailleurs, il faut dire, dans le stigmate que l'on reconnaissait jadis la marque de Dieu. Et si c'est cet homme-là qu'elle a voulu décrocher, c'est dans la mesure même où il lui parle sous les espèces de l'injure. Et que c'est ainsi qu'elle se sent femme. Et pourquoi ? Et on arrive au terme ultime. Il se trouve que le père nourrissait un mépris profond pour la féminité, un mépris d'origine religieuse. Et c'est bien dans ce rapport à son Dieu que c'était pour lui développer une méfiance, une véritable haine à l'endroit de la féminité. Et c'est ce qui n'avait pas échappé à sa fille. Et le couple infernal commémorait le symptôme du père. Par l'intermédiaire du partenaire qu'elle avait voulu, le sujet, cette jeune femme, jouissait de la stigmatisation paternelle. Alors, elle pourra le quitter seulement si elle quitte, si s'efface l'image éternisée de son père. Mais peut-être aussi bien si elle cesse de désirer l'injure, peut-être que aussi bien le partenaire cessera de s'adresser à elle sur ce mode.